France Inter, Léa Salamé, Nicolas Demorand, le 7-9.
Bonjour à tous, aujourd'hui lundi 8 mars, journée spéciale sur France Inter à l'occasion de la journée internationale des droits des femmes. En partenariat avec le mensuel Marie-Claire, de nombreux rendez-vous toute la journée sur notre antenne et bien évidemment dans le 7-9. Première illustration dans quelques secondes avec la parole donnée à celles qu'on a appelées pendant l'épidémie les premières de corvée. Bonjour Agnès Soubiran.
Bonjour.
Les autres titres.
Près de 400 000 doses de vaccins administrées ce week-end, des opérations amenées à se reproduire. Un enseignant de Sciences Po Grenoble mis en cause par des étudiants livre sa version sur France Inter. De nouvelles manifestations attendues au Sénégal. J'ai eu envie de mourir, les confessions de Meghan Markle, l'épouse du prince Harry. Et puis on aime toujours ces matchs peau de fer contre de peau de terre. Et cette fois, c'est l'OM qui chute encore.
Invité et rendez-vous de France Inter ce matin à 7h50, Léa.
Oui, elle se livre avec une sincérité désarmante, déchirante même, dans un nouvel album. Dessiner encore et vivre encore après avoir perdu tous ses amis de Charlie Hebdo. La dessinatrice Coco sera avec nous à 7h50.
Et on se retrouvera aller à 8h20 pour le grand entretien de la matinale avec la maire de Paris, Anne Hidalgo. Vos questions dès maintenant, 01 45 24 7000, le standard est ouvert et vous attend. À 7h15, premier épisode de notre série de Zoom spéciaux, un an de Covid, ce matin avec les Asiatiques de France.
France Inter.
Quand les femmes s'arrêtent, tout s'arrête. C'est l'un des slogans cette année de la Journée internationale des droits des femmes. Un slogan pour dénoncer les écarts de salaire, encore 26% en moyenne, dénoncer les discriminations, les violences sexuelles et sexistes. Ce 8 mars sonne donc la mobilisation générale avec un appel à une grève féministe, des préavis déposés dans l'éducation, les transports, l'énergie, la poste, et un soutien tout particulier à ces femmes qui, durant cette année de crise, ont permis à la France de manger et de se soigner. Ces premiers de corvée qui attendent encore la reconnaissance qu'elles méritent. Claire Chaudière a rencontré deux d'entre elles.
C'est une journée de grève dans la rue, on va marcher.
Impossible de manquer cette journée pour Salimata et Dominique, respectivement caissières et employées en rayon dans la grande distribution à Paris. Un 8 mars très particulier, disent-elles, après une année hors norme.
Nous sommes toujours au boulot, nous sommes les premières à être au boulot dès 6h du matin.
C'était nous les soldats qui étaient au front, mais c'était d'abord des femmes.
Aller au travail, la peur au ventre il y a un an, puis cette fierté et cet espoir, racontent-elles, lorsque leur rôle est mentionné lors d'allocutions présidentielles, l'attente et la déception.
Aucune reconnaissance. Quand on sait que les factures derrière, la majorité des femmes sont des femmes seules, des mères seules, c'est très très dur.
On a été complètement oubliés.
Même colère à l'autre bout de la France pour Aurore, aide à domicile qui manifestera à Tarbes aux côtés de ses collègues des EHPAD et avec toutes les autres premières de corvée, comme elle les appelle.
Qui c'est qui a fait tourner le pays et qui c'est qui a fait que tout a fonctionné? Oui, c'est des femmes, les femmes de ménage, les caissières, les aides-soignantes, les infirmières et nous, les aides à domicile. On a fait des heures pas possibles. Hein. On a un taux de burn-out qui explose. Le salaire moyen d'une aide à domicile, c'est 900 euros par mois. Comment on vit avec 900 euros par mois?
Sans compter que les primes promises en 2020 ont souvent été tronquées, réduites à 500 ou 200 euros, note Aurore, ou même inexistantes sur certains territoires.
Des manifestations donc, et à Paris, départ du cortège à 13h de Port-Royal, direction la place de la République. Sur Inter, journée spéciale, les femmes et la science dans le 13-14 de Bruno Duvic, les femmes et la libération sexuelle dans le téléphone sonne, et puis sur le web, 6 conseils pour élever son enfant de manière féministe.
Il est 7h04, Agnès, retour sur un grand week-end de vaccination.
Près de 400 000 doses de vaccins administrées. Le coup d'accélérateur promis par le gouvernement était visible dans ces centres ouverts, samedi et dimanche, un peu partout en France. Des opérations amenées à se renouveler lorsque les doses de vaccins seront disponibles en grande quantité, a déclaré hier le ministre de la Santé, qui s'est rendu dans plusieurs centres, à Boulogne-sur-Mer, dans le Pas-de-Calais, ou encore à Tourcoing, dans le Nord. À Paris, les sapeurs-pompiers qui ont ouvert 2 centres ce week-end se disent d'ailleurs prêts à recommencer. Reportage dans les casernes Masséna et Champeret de Valentin Dunat.
En arrivant dans la caserne, Monique, 81 ans, pousse un ouf de soulagement.
Ouf ! Ah ben oui, depuis le temps que j'attends.
Pour accueillir ces centaines de personnes, les engins de secours ont été déplacés. La vaccination, elle, est effectuée par les médecins et les infirmiers de la BSPP, la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, comme l'explique le capitaine Julien Hardy.
Nous disposons au sein de la BSPP de nos propres médecins, du service de santé des armées, de nos propres infirmiers, qui sont donc tout à fait habilités à procéder à la vaccination.
Du début à la fin de la prise en charge, les sapeurs-pompiers de Paris, qui forment une unité du génie de l'armée de terre, savent faire. L'organisation est militaire.
Oui, et je trouve dommage qu'on les forme pas à faire des injections. On leur confie nos vies au quotidien, et c'est pas aux pharmaciens qu'on confie nos vies, c'est plutôt aux pompiers.
En l'état actuel de la législation, il n'est pas permis à un sapeur-pompier, pourtant secouriste professionnel, de procéder à la vaccination. Quant à la suite, les jours, les semaines à venir, voici la réponse du capitaine Hardy.
L'exécutif prendra la mesure de ce qui a pu être fait et de la même façon que nous l'avons fait ce week-end, nous restons aux ordres et en mesure de reconduire ce genre de dispositif.
Tous ces rendez-vous se prennent par internet via Doctolib. Les numéros d'urgence 18 et 112 ne sont pas dévolus à la vaccination.
Et le point noir ce matin, c'est le nombre de patients en réanimation en hausse, 3743, un niveau qui n'avait plus été atteint depuis fin novembre. Et pour tenter de freiner la propagation du virus, les quais de la Garonne à Toulouse resteront fermés toute la semaine. Petit-fils de Marcel Dassault, fils de Charles Dassault, Olivier Dassault, héritier d'une grande famille d'industriels et mort dans un accident d'hélicoptère. Âgé de 69 ans, Olivier Dassault était député de l'Oise depuis plus de 30 ans sous l'étiquette Les Républicains. Emmanuel Macron rend hommage à un homme qui aimait la France, son portrait dans le journal de 7h30. La suite de la polémique à Sciences Po Grenoble, la justice a ouvert une enquête pour injure publique après l'affichage sauvage accusant deux enseignants d'islamophobie, en cause des témoignages d'étudiants sur d'éventuels propos problématiques tenus lors de la préparation d'une semaine sur l'égalité. Deux enseignants nommément désignés comme fascistes qui, eux, estiment simplement avoir fait leur métier en suscitant le débat. L'un d'eux s'est confié longuement à Maxime Debs. Il se dit dépassé et défend sa position.
Il n'aurait jamais pensé déclencher ça, lui le prof dont l'existence n'a jamais intéressé personne, qui ne revendique, dit-il, que la liberté d'enseigner, de formuler des opinions, fondées ou pas, lui-même au fond ne le sait pas, je défends simplement le droit de le faire dans un rôle académique. En novembre dernier, il interroge, lors de la préparation d'une semaine sur l'égalité, antisémitisme, racisme et islamophobie peuvent-ils être juxtaposés dans une même thématique ? Il ouvre le débat, lequel tourne court, ostracisé, dit-il par ses collègues, c'est dire détourné sur les réseaux sociaux. On me traite de facho, me dépeint en islamophobe, c'est qu'on cherche à me diffamer, on criminalise, je cite, l'échange d'idées. Je n'ai jamais dit que l'islam était une mauvaise religion, je ne le dirai jamais. J'ai le plus grand respect pour les croyants. Gênant, en revanche, sont ceux qui tirent les ficelles, les fondamentalistes qui manipulent le terme à leur fin. Dépassé, ce professeur, 25 ans de métier, s'est mis en arrêt quelques jours, avec le sentiment, peut-être, quelque part, d'avoir touché un air de son époque.
Et justement, dans l'enquête sur l'assassinat de Samuel Paty, la collégienne à l'origine de l'affaire a avoué avoir menti. Nous y reviendrons dans le journal de 8h.
Il est 7h08, le président sénégalais, sous la pression de la rue.
Une nouvelle semaine de manifestations débute aujourd'hui, après les troubles de ces derniers jours qui ont fait au moins 5 morts. Des manifestations pour demander la libération de plusieurs opposants politiques. Les écoles vont d'ailleurs rester fermées cette semaine et il est demandé aux Français de faire attention, car les symboles de la France sont régulièrement pris pour cible. Reportage à Dakar de Nathanaël Charbonnier.
Le sentiment anti-français est non seulement visible, mais il semble venir de loin.
Ici, c'est le Sénégal. T'as vu, c'est pas les blancs qui dirigent.
Être blanc, être français, cela représente un système dont une partie de la population ne veut plus, car synonyme de pillage des richesses du Sénégal.
Nous, on ne reproche rien aux Français. Ce qu'on reproche, c'est Macky Sall prend nos ressources à la disposition des Français. Or que ces ressources doivent être à la disposition des Sénégalais. Le pétrole, le gaz, mais les Sénégalais n'en savent absolument de cela. Donc, ce que nous voulons, c'est que Macky Sall nous respecte, respecte les Sénégalais d'abord.
Être français, c'est pour certains jeunes être aussi le complice de leur président Macky Sall, qu'ils accusent de vouloir museler l'opposition avec l'arrestation de leur leader Ousmane Sonko.
On est en colère contre ce système, on est en colère contre cette justice partisane. Un pouvoir qui utilise la police et la gendarmerie contre son peuple. Et ça, c'est injuste. C'est injuste. Merci.
Être français au Sénégal, c'est enfin être une cible. Les groupes Auchan et Total ont vu plusieurs de leurs magasins totalement saccagés lors des affrontements entre jeunes et police. À Dakar, Nathanaël Charbonnier, France Inter.
Et Pierre Aski reviendra sur la situation au Sénégal à 8h15 sur Inter. Manifestation et grève prévues également aujourd'hui en Birmanie, à l'appel des syndicats qui veulent paralyser l'économie du pays. Et on en vient à l'interview confession de Meghan Markle et du prince Harry, exilés en Californie pour fuir une famille royale britannique surnommée La Firme. Pensée suicidaire, soupçon de racisme, dénigrement. Le couple a tout raconté à Oprah Winfrey. Entretien diffusé cette nuit sur CBS et suivi de près par le Glory.
Je ne voulais plus être en vie, explique Meghan Markle, les larmes aux yeux, et cette pensée, dit-elle, était claire, réelle, effrayante et constante. Dans cette interview, la duchesse de Sussex affirme avoir été isolée, dénigrée, réduite au silence par la firme, l'autre nom de la famille royale. Elle raconte aussi le racisme à l'époque à l'égard de son futur fils.
Il y avait des inquiétudes, des discussions autour de la couleur de sa peau à la naissance. C'est Harry qui m'a rapporté ces discussions que la famille avait eues avec lui.
Personne, en revanche, n'est nommé attaqué, signe que le lien n'est pas totalement rompu. Le couple explique surtout les raisons de son inéluctable départ. Pression familiale, mensonge des tabloïds, ne pas voir également l'histoire se répéter, dit le prince Harry, en référence à la mort de sa mère, la princesse Diana.
C'est cela que je voyais, l'histoire se répéter, peut-être certainement même plus dangereusement, parce qu'il y avait la question raciale, les réseaux sociaux. N'importe qui aurait demandé de l'aide, mais on nous disait continuellement que c'était comme ça, que tout le monde était passé par là. J'étais prisonnier du système, mon frère et mon père le sont toujours, dit-il à la fin de cet entretien fleuve, sans grande révélation. Une remise à l'heure des pendules de Buckingham, depuis un patio fleuri de Californie, plus que le règlement de compte annoncé. New York, Loïc Loury, France Inter.
Le couple qui dit aujourd'hui vivre un conte de fées en Californie et qui attend une petite fille. Une saison en enfer pour l'OM, médiocre en Ligue 1, minée par des querelles internes. L'équipe a sombré hier soir en 16e de finale de la Coupe de France, éliminée par les amateurs de Canet en Roussillon qui évoluent en National 2. Et les mots crus hier soir du milieu de terrain marseillais Boubacar Camara.
La honte, il n'y a pas de mots. On a fait de la merde et il faudra payer. Le résultat est juste.
Voilà, pas besoin d'en dire plus. Ambiance évidemment tout autre du côté des Catalans, score final 2-1, récit signé Romain Amalric.
Longtemps, les chants de la victoire ont résonné dans le vestiaire des Catalans hier soir, car les hommes de Farid Fouzari ont réussi le match parfait. Le numéro 10, Ludovic Gasparotto, a du mal à réaliser.
Franchement, c'est exceptionnel. Pour l'instant, il y en a même qui ne réalisent pas encore dans le vestiaire. Sortir une Ligue 1 en 16e, Marseille en plus, franchement, c'est un exploit pour nous. Et on est tous très fiers de ce qu'on a fait ce soir.
L'un des héros de la soirée, l'attaquant Yohan Bay, a inscrit le but de la victoire, un joli petit piqué au-dessus du gardien marseillais. Pour lui, la soirée mérite de s'éterniser.
Moi, je crois qu'on va dormir au stade si c'est possible, hein. Mais on n'a même plus envie de quitter le stade. Le vestiaire, il est en folie. On se fait des câlins par-ci par-là, on remercie tout le monde, on profite, c'est tout.
Pour les Catalans, l'épopée continue après Marseille. Tous veulent désormais affronter le PSG au prochain tour.
Et dernier 16e de finale de la Coupe de France ce soir, Nice-Monaco, tirage au sort des 8e de finale dans la foulée.
Merci Agnès Soubiran. Dans 3 minutes, le premier épisode de notre série de Zoom spéciaux, un an de Covid, ce matin avec les Asiatiques de France.